La semaine aura été marquée par l'anniversaire du pape François, 77 ans, et l'on ne pouvait s'empêcher à cette occasion de tracer déjà un bilan de ses 9 premiers mois de pontificat avec l'éditorialiste et écrivain Patrice de Plainquette.
Pape François a suscité un élan d'intérêt sans précédent de la part des milieux non chrétiens et non croyants dans le monde entier. Et profitant de cet immense intérêt dû à son style très direct, très clair, très simple, très percutant, il en a usé pour poser des problèmes qui étaient les problèmes les plus brûlants et en premier lieu, l'examen de conscience, je dirais, des catholiques des pays riches, secouez vos habitudes et surtout comprenez que l'image que vous donnez conditionne l'efficacité de l'évangélisation. Les grandes orientations qu'il a indiquées vont maintenant engendrer des décisions concrètes, à la fois des réformes internes dans l'Église et en même temps un élan vers l'évangélisation, donc de nouvelles structures. Et ça, il faut bien s'attendre à ce que François, qui est un homme du concret, va nous surprendre certainement tous par des décisions qui ne feront certainement pas plaisir à tout le monde, mais tant mieux, alléluia.
Pendant ce temps, le cardinal Courtecor effectuait une visite de plusieurs jours en Russie. Moscou, Saint-Pétersbourg, le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens a rencontré les communautés catholiques du pays, mais ce voyage se voulait surtout œcuménique auprès de l'Église orthodoxe. Point d'orgue, la rencontre avec Cyril, patriarche de Moscou et de toute la Russie. À son retour, le cardinal Cor nous confiait ses impressions.
On a traité les différences et les défis du dialogue théologique entre les églises orthodoxes et l'Église catholique. Les défis de notre société, et surtout la situation de la famille, mais aussi beaucoup des défis au niveau culturel. On a approfondi des possibilités pour la collaboration culturelle, éthique entre l'Église orthodoxe russe et l'Église de Rome. On a parlé surtout aussi sur des problèmes politiques en Ukraine et en Syrie et au Moyen-Orient.
En France, c'est la fin de vie qui s'invitait à nouveau dans le débat public. La légalisation du suicide médicalement assisté, c'est ce que préconise en France la conférence de citoyens voulue par François Hollande. Leurs conclusions ne satisfont pas les évêques français. Monseigneur Potvin, porte-parole des évêques de France, déplorait ainsi beaucoup de déceptions et de confusion.
Les partisans de l'euthanasie disent que même ce que dit la conférence citoyenne est une fausse bonne idée. Alors si eux-mêmes disent que cette proposition est une fausse bonne idée, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Ça veut dire que ce que la conférence citoyenne propose, que bien sûr je désapprouve, ne serait à leurs yeux pas suffisant encore. La porte ne serait donc pas encore suffisamment ouverte à l'euthanasie. Donc il y a là quelque chose de très inquiétant. Quel est le statut de cette consultation ? À travers toutes ces consultations successives et confuses, on est en train de brouiller le message sur une question qui est très très grave, qui est très cruciale, qui demande un infini respect des personnes. Parler d'exception d'euthanasie, c'est ouvrir la porte à des choses que l'euthanasie va ensuite provoquer bien plus gravement.
On n'oubliait pas non plus la situation dramatique des Syriens, réfugiés à l'étranger ou coincés dans le pays. L'archevêque grec catholique d'Alep, Mgr Jean-Clément Jambard, nous racontait mercredi les conditions de vie dans sa ville du nord-ouest syrien.
La situation est très difficile, très, très dure pour les citadins, pour les habitants d'Alep. Il fait très froid. Les moyens pour se réchauffer sont vraiment très pauvres. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas suffisamment de carburant. Tout a renchéri. C'est une vie vraiment très difficile pour nous et pour les fidèles surtout. Mais les pauvres familles, les enfants, les plus pauvres aussi, encore plus que ceux qui ont un peu d'argent, souffrent énormément. Et nous ne savons pas comment les choses vont se terminer.
Alors que des violences étaient encore rapportées cette semaine en Centrafrique, le Soudan du Sud revenait à la une. Va-t-on vers un conflit de type ethnique ? L'ancien vice-président Riek Machar, limogé en juillet, est accusé par le président sud-soudanais Salva Kiir de coup d'État en début de semaine. Les deux hommes, le premier Nuer, le second Dinka, n'ont cessé d'entretenir leur rivalité ces derniers mois au risque de jouer avec le feu et de créer un embrasement ethnique du pays. C'est l'analyse que nous offrait Mohamed Nadji, rédacteur en chef du site internet Soudan Tribune.
Malheureusement, les deux hommes n'ont pas su être sages et chercher à résoudre leur conflit de manière, j'allais dire, pacifique. Le conflit politique a commencé depuis juillet dernier, donc ça, c'est vraiment ça qui a causé le conflit. Maintenant, on craint qu'un embrasement total dans l'ensemble du pays.
On parlait pas mal aussi de la Russie et des coups d'éclat du président Poutine. Ainsi, l'accord signé avec Kiev sur une réduction du prix du gaz et un investissement de milliards de dollars dans des titres de gouvernement ukrainien, histoire d'avoir l'Ukraine au pied. Et puis la décision du même Poutine de gracier l'ancien oligarque Mikhaïl Khodorkovsky 2 jours après le vote d'une loi d'amnistie au Parlement qui pourrait concerner 12 000 prisonniers. Françoise Dossé, maître de conférence à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, décryptait ces décisions de Poutine qui tombent, comme par hasard, à quelques semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi.
C'est un aspect conjoncturel, la volonté de redorer l'image de la Russie avant les Jeux Olympiques de Sotchi qui commencent en février. Ça reflète aussi d'une certaine façon les modes de gouvernement en Russie actuellement, qui sont un mode de gouvernement basé à la fois sur la répression, mais aussi en permanence sur la conciliation. D'une certaine façon, Vladimir Poutine joue sur les deux tableaux de façon alternée pour conserver son pouvoir.